Il est possible de connaître Dieu. Est-il possible à l'homme de savoir qu'il y a un Dieu ? Est-il possible à chaque être humain, où qu'il soit sur cette terre, de savoir que Dieu existe ? Le psaume que nous allons méditer ce matin commence par répondre à ces questions. C.S. Lewis, auteur chrétien bien connu, en particulier pour les fameuses chroniques de Narnia, considérait que notre psaume est le plus beau poème ou le plus grand poème de la Bible. Notre psaume, vous en doutez peut-être, c'est le numéro 19, que je vous invite à écouter maintenant dans la traduction de la Bible à la Colombe. Nous lisons donc le psaume 19, qui va s'afficher normalement. Tu peux juste recliquer sur la... Voilà, merci. Au chef de chœur, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. Plus douce que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ces fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péchés graves. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Le psaume 19 se découpe naturellement en trois parties. Trois parties que je vous propose de prendre dans l'ordre, et nous allons voir que chaque partie conduit logiquement à la suivante. Dans la première partie de notre psaume, qui va du verset 1 au verset 7, il est question de la manifestation de la gloire de Dieu dans le ciel et dans l'étendue céleste, et par extension, nous pourrions dire, dans toute la création. Verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Alors que les cultes païens de l'époque divinisaient et adoraient le ciel et ses astres, leur conférant le pouvoir de gouverner le destin des hommes, David, dans ce psaume, les considère comme les ouvrages, l'œuvre du Dieu créateur, et comme reflétant sa gloire. Cette manifestation de la gloire de Dieu est donc de son existence. Est-ce que les théologiens ont appelé la révélation générale? Et oui, pour connaître Dieu, il fallait que Dieu se révèle, qu'il se révèle à nous. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a choisi de se révéler à l'homme premièrement par sa création, par la nature et l'univers qui nous entoure et qui disent qu'il y a un Dieu créateur. Cette révélation est dite générale, principalement parce qu'elle est accessible à tous, en tout lieu, en tout temps et sans discontinuer. Sans discontinuer, verset 3, le jour en donne connaissance au jour et la nuit en donne connaissance à la nuit. Elle est donc universelle, cette révélation générale, intemporelle et incessante. Au verset 4 et 5, le psalmiste précise ensuite que notre révélation dite générale n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles audibles, mais c'est un témoignage dont la trace apparaît sur toute la terre, dont les accents vont aux extrémités du monde. Et ainsi, parce que ce n'est pas un langage qu'il faudrait connaître, mais un témoignage que tous peuvent voir, cette révélation est bel et bien accessible à tous. Et compréhensible par tous. Que je sois en France, en Patagonie ou en Sibérie, j'ai accès à cette révélation de Dieu, cette révélation qui me dit que Dieu existe et je peux la comprendre parce que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Ainsi, cette révélation générale est suffisante. Suffisante pour que l'homme sache que Dieu existe, qu'il y a un Dieu. Et c'est cette vérité qui fera dire à l'apôtre Paul, dans un texte très fort au début de son épître aux Romains, que l'homme est inexcusable, dit-il, de ne pas connaître Dieu, parce que Dieu est manifestement visible, dit-il, dans sa création. Nous allons lire quelques versets de ce texte des Romains. Romains 1, versets 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Aucun être humain sur cette terre ne peut prétendre à l'ignorance de Dieu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité sont manifestes pour l'homme depuis la création du monde. C'est pourquoi tout homme sur cette terre sait au fond de lui que Dieu existe. Et personne ne pourra faire valoir devant Dieu au jour du jugement l'argument qu'il ignorait l'existence de Dieu. Mais voilà, dit Paul, pour l'heure, malgré cette évidence, il y a des hommes et des femmes qui retiennent la vérité captive, cette vérité captive des hommes et des femmes qui s'égarent dans de vains raisonnements, qui ont leur cœur plongé dans les ténèbres. Et c'est pourquoi, dit encore Paul, Dieu est en colère. Dieu est en colère et l'homme est inexcusable. Inexcusable car il sait que Dieu existe et car il ne le glorifie pas et ne lui rend pas grâce. Est-ce qu'il est possible de connaître Dieu ? Est-il possible à l'homme de savoir qu'il y a un Dieu ? Est-il possible à chaque être humain, où qu'il soit sur notre planète, de savoir que Dieu existe ? La réponse à ces questions est oui. Oui, car Dieu est manifestement visible dans sa création, où que je sois sur cette terre. Ceci dit, si la révélation de Dieu dans la nature est suffisante pour révéler l'existence de Dieu, elle est cependant insuffisante pour révéler à l'homme qui est Dieu, qui est ce Dieu créateur. La grandeur et la beauté de la création me disent que Dieu existe, me disent qu'il est grand et glorieux, me disent qu'il est puissant. Mais elles ne me disent pas qui il est. Elles ne me disent pas si ce Dieu créateur est bon ou mauvais. Elles ne me disent pas s'il se soucie de moi ou pas, s'il est bien disposé à mon égard ou pas, s'il désire entrer en relation avec moi ou pas. Pour toutes ces choses, et bien d'autres encore, il fallait une autre révélation. Il fallait une révélation particulière. Il fallait que Dieu nous le dise autrement et directement. Et c'est ce qu'il a voulu faire par sa parole. C'est ce qu'il a voulu faire suprêmement en Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair. Et c'est la raison pour laquelle, certainement, David, dans notre psaume, va passer sans transition à la deuxième partie, où il va parler de la loi de Dieu, où il va parler de sa parole. La transition est abrupte, mais elle n'est pas arbitraire, car les cieux comme la loi, font connaître Dieu à leur manière. Si la première partie du psaume souligne la révélation dans la création, la deuxième partie de notre psaume, qui va du verset 8 au verset 12, parle de la révélation de Dieu dans sa parole. Une révélation que les théologiens ont voulu appeler révélation particulière ou révélation spécifique. Dieu a aussi choisi de se révéler par sa parole. Bien sûr, ici, dans cette deuxième partie, il n'est que question de la loi donnée à Israël, pas du Nouveau Testament, qui n'existait pas encore. Mais ce qui est vrai de la loi est aussi pour les Écritures, pour le Nouveau Testament, pour les Écritures dans leur ensemble. Oui, dans toute la parole de Dieu, et de façon progressive, Dieu se révèle, Dieu se dévoile en nous disant, entre autres, qui il est, qui nous sommes. Parce que connaître Dieu, c'est se connaître soi-même. C'est comprendre que nous sommes pécheurs, séparés de ce Dieu trois fois saint, séparés de lui à cause de notre péché. Dieu nous révèle ces choses dans sa parole et il nous révèle aussi qu'il nous aime et que malgré notre péché, il a tout mis en œuvre dès la chute pour pourvoir une solution et préparer la venue de son Fils qui allait un jour prendre notre condamnation à notre place. pour que nous sachions ces choses et pour que nous les comprenions, il fallait que Dieu se révèle directement par sa parole. La grandeur et la beauté de la création, de l'univers, de la nature, ne nous disent rien de l'amour de Dieu, en tout cas rien de l'amour de Dieu pour nous, ne nous disent rien de notre péché, ne nous disent rien du salut qui se trouve en Jésus et qui nous est offert gratuitement. Par contre, pour celui qui ne ferme pas son cœur, la grandeur et la beauté de la création vont l'inciter à rechercher ce Dieu créateur. Et c'est dans sa parole que nous faisons véritablement sa connaissance. Et en particulier, et c'est notre privilège par rapport à David, en Jésus, la parole de Dieu faite chair. Jésus qui va nous révéler intimement le Père, intimement ce Dieu créateur. David, donc, dans cette deuxième partie qui concerne la loi de Dieu, va nous parler de cette révélation de Dieu au travers de sa parole. Si ce qu'il dit est bien moins élaboré ici que ce que le psalmiste dira, par exemple, au psaume 119, concernant la parole, il y a néanmoins ici une vraie richesse dans la description de la loi et de ses effets. Et avant de regarder rapidement à cette richesse, j'aimerais souligner un changement important qui s'est opéré entre la première et la deuxième partie. En effet, dans la première partie, le nom de Dieu qui est utilisé dans l'hébreu est son nom commun, El en hébreu, que l'on traduit en français par Dieu tout simplement. Alors que dans la deuxième partie, c'est le nom de l'alliance, c'est son nom d'alliance, que l'on traduit par l'Éternel ou par le Seigneur avec un grand S généralement, que David utilise et qui est utilisé ici à 6 reprises. Alors qu'est-ce que cela nous fait comprendre ? Cela nous fait comprendre que si tout le monde a accès à la connaissance du Dieu créateur par la nature, on ne peut entrer en relation avec lui que par sa révélation particulière, que par sa parole qui nous révèle comment Dieu veut faire alliance avec nous, sa parole qui nous révèle que le Dieu créateur est aussi Yahvé, celui qui désire faire alliance avec nous. Sa parole qui nous révèle qu'il nous a donné Jésus pour cela. Alors que dit David de la parole de Dieu ? Il y aurait ici beaucoup à dire, beaucoup trop, je vous rassure, pour le temps qui nous reste. Je serai plutôt lapidaire, une fois n'est pas coutume. D'abord, nous constatons que David utilise plusieurs synonymes pour parler de la loi. Je les ai mis en jaune dans le texte. Et chaque synonyme qu'il utilise va souligner un aspect de cette parole. Et tous ces synonymes nous disent quelque chose de la richesse de la parole de Dieu. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire pour chacun de ces termes. Il y a la loi au verset 8, le témoignage toujours au verset 8, parfois traduit par précepte dans certaines traductions, les ordres ou les directives au verset 9, le commandement toujours au verset 9, et enfin les ordonnances, qui sont termes qui sont aussi parfois traduits par règles, sentences ou jugements. Et avec ces différents synonymes de la loi de Dieu, de sa parole, David va utiliser des adjectifs pour qualifier ces termes, plusieurs adjectifs. Cette loi de Dieu, elle est parfaite, verset 8, sans défaut. Elle est véridique, entièrement digne de confiance. Elle est droite, elle reflète le caractère de Dieu, verset 9. Elle est limpide, sans corruption, verset 9. Elle est vraie et juste, verset 10. Et puis enfin, nous notons que David va ajouter quelques effets de cette parole. Et le premier, c'est qu'elle restaure l'âme. La parole nourrit notre âme, comme la nourriture physique nourrit notre corps. Et nous pensons ici à ce texte du Deutéronome qui nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le deuxième effet que David souligne, c'est que cette parole rend sage le simple. Même le simple peut être sage s'il met sa confiance en Dieu et en sa parole. Parce que la sagesse, selon Dieu, c'est de vivre selon Dieu. C'est de vivre de sa parole. La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, n'est-elle pas le commencement de la sagesse ? Le troisième effet que David souligne, c'est qu'elle réjouit le cœur. L'obéissance à ce que Dieu dit est une véritable source de joie pour le croyant. Une véritable source de joie parce que c'est là, dans l'obéissance à la parole de Dieu, que l'être humain trouve sa vraie place devant Dieu. Et puis enfin, il dit qu'elle éclaire les yeux. Il y a deux manières de comprendre ici, soit elle rend clairvoyant, soit elle redonne la vie. Je vous avais dit que ça serait lapidaire, on pourrait le développer bien sûr, mais on avance. Et après avoir dit quelque chose de la richesse de la parole, par ses quelques synonymes et ses quelques effets, David va terminer cette deuxième partie en mentionnant trois choses que la parole est pour lui. Et la première des choses qu'il dit au verset 11, c'est qu'elle est pour lui un grand trésor. Un grand trésor qui est plus précieux que l'or, plus précieux que l'or fin. La parole de Dieu est pour David plus précieuse que l'or. En fait, bien évidemment, l'or est précieux, mais d'une autre sorte de richesse, d'une richesse qui est périssable. Alors que la parole de Dieu est précieuse du salut, elle est précieuse de la vie éternelle, et ainsi bien plus précieuse que l'or, même l'or le plus fin. Quel grand trésor que celui de la parole de Dieu. Est-ce que cette parole est aussi pour moi un grand trésor? Est-ce que je la chéris par-dessus tout? Deuxièmement, David va dire toujours au psaume, au verset 11, qu'elle est pour lui un grand délice. Plus précieuse que l'or, même que beaucoup d'or fin, plus douce que le miel, même que le miel qui coule des rayons. La parole de Dieu est pour David un mets exquis qui lui procure une immense joie. Elle est dans sa vie plus douce que le miel. Même le miel le meilleur, celui qui coule directement des rayons. La parole de Dieu est-elle aussi pour moi un grand délice? Est-ce que j'aime y plonger mon regard? Et puis, troisième et dernièrement, David va dire au verset 12 qu'elle est pour lui un grand profit. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Oui, l'avantage est grand pour celui qui observe la parole de Dieu. Et il suffit de rappeler ici les effets dont nous avons parlé. Elle restaure l'âme, elle rend sage le simple, elle réjouit le cœur, elle éclaire les yeux. Oui, la parole est un grand profit pour celui qui l'observe, pour celui qui s'en nourrit, pour celui qui s'en délecte, pour celui qui la chérit. La parole de Dieu est-elle aussi pour moi un grand profit? Est-ce que je l'observe afin de bénéficier de ses grands avantages pour moi? David est passé de la révélation générale à la révélation particulière. Une révélation qui a été donnée à l'homme pour qu'il en vive. Dieu ne s'est pas révélé à l'homme tout simplement pour l'informer. Il ne nous a pas donné sa parole pour nous informer de son existence, mais pour nous transformer. Et c'est ultimement et toujours vers ce but que doit nous conduire la connaissance de Dieu. Une connaissance de Dieu qui ne nous transformerait pas serait stérile et inutile. Elle serait au mieux à classer au rang des autres connaissances, des autres sciences acquises par l'être humain. Et c'est ce qui se passe souvent quand on étudie la théologie comme une autre science, comme une science comme les autres. Mais si Dieu s'est fait connaître à nous, c'est pour que nous puissions le connaître personnellement. C'est pour que nous puissions nous approcher de lui et être réconciliés avec lui. Pour que nous puissions vivre dans sa proximité et le faire ici-bas, mais aussi pour l'éternité. Et c'est dans cette logique que David arrive à la troisième et dernière partie de ce psaume. Une partie bien plus personnelle. Plus personnelle parce que la connaissance de Dieu par la parole a fait son effet dans le cœur de David. Et dans cette troisième partie, David parle à la première personne du singulier. Et il adresse plusieurs requêtes à Dieu. Je vous invite à relire ces versets 13 à 15. Qui connaît ? Alors, j'étais allé trop loin. Qui connaît ces fautes involontaires ? Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péché grave. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. En cette troisième et dernière partie, David parle donc à la première personne du singulier. Ce qu'il dit le concerne directement. Et que dit-il ? Il commence par demander à Dieu, au verset 13, de pardonner ses fautes cachées. Par la connaissance de Dieu dans sa parole, David est pleinement conscient de son péché. Sans doute a-t-il déjà demandé pardon pour les péchés dont il est conscient. Maintenant, il demande à Dieu de lui montrer ce qui serait caché, afin que rien ne vienne faire obstacle à sa communion avec Dieu. Puis conscient de l'influence des autres dans sa vie, il demande à Dieu, au verset 14, de le préserver des gens arrogants, présomptueux. Pourquoi ? Il nous donne lui-même la réponse, afin qu'il reste intègre et innocent, pardon, de toute transgression grave. Le désir de communion du psalmiste avec son Dieu est tel qu'il ne veut que, il veut que rien ne vienne entraver cette communion. Ni les péchés conscients, ni ceux qui pourraient être inconscients, ni ceux qui pourraient faire en se laissant entraîner par d'autres. Enfin, conscient que tout n'est que grâce, David va demander à Dieu, au verset 15, à Dieu, son rocher et son libérateur, d'agréer les paroles de sa bouche et la méditation de son cœur. Et ici, David associe, en se l'appropriant, le nom Yahvé, l'Éternel, le Seigneur, à celui de Rédempteur. Celui qui le rachète, celui qui le sauve. Oui, le Dieu créateur, le Dieu qui a fait alliance avec son peuple, Yahvé, est aussi son rédempteur, son sauveur. La connaissance de Dieu par la création et par la parole n'est pas restée stérile et inutile pour David. Au contraire, elle a amené David à rechercher Dieu et à saisir la main de grâce qu'il lui tendait et qu'il tend encore aujourd'hui à quiconque s'approche de lui. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, il est possible de connaître le Dieu créateur. Et il est même possible d'entrer dans son alliance, d'entrer dans une relation avec lui. Il est possible que Dieu soit notre rédempteur. David avait à sa disposition une révélation incomplète de Dieu, ce qui n'est pas notre cas. Mais depuis, Jésus est venu. Et il est venu pour nous révéler parfaitement le Père. Il y a bien des choses dans l'Ancien Testament, mais Jésus nous en apprend bien d'autres, nous fait comprendre bien d'autres richesses. Jésus qui est venu pour nous révéler le Père, mais aussi pour donner sa vie et pour faire une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes par son sang, par sa vie. Il est venu ainsi pour nous ouvrir un chemin jusqu'au Père. Il est venu pour que nous puissions dire nous aussi, après avoir connu Dieu, après nous être repentis de nos péchés, reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Amen. Je vous invite à prendre quelques instants de silence.